Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Notre écrivain, marcheur vers Saint-Jacques par le chemin du Nord, arrive à Oviedo. Sur les traces d'Alphonse II et de Bouddha. À Oviedo, tout est noble. Les églises, la cathédrale, les rues, les porches, les façades. Au sol, évidemment, il fallait aussi que le chemin fût marqué par les signes jacquaires les plus luxueux. Des coquilles de bronze enchâssées dans le granit des pavés. Ces coquilles mènent à la plus remarquable plaque horizontale qui se puisse rencontrer. Elle est située non loin de la cathédrale. C'est un rectangle de métal brillant qui matérialise une grande bifurcation compostellane. Tout droit, en empruntant une petite rue qui descend en serpentant, on se dirige vers Rijon. C'est la continuation du chemin côtier. Si l'on choisit de se mettre à la poursuite de l'autre flèche, on s'engage par de larges avenues sur le Camino Primitivo et l'on pique vers les montagnes. J'avais repéré ce carrefour la veille en visitant la ville. Quand je m'élançais le lendemain, à l'aube, rues et places étaient désertes. Nul touriste inconscient ne souillait de ses baskets impies l'émouvante plaque de bronze. Je me plaçais à la verticale de cette séparation historique et effectuais avec lenteur et en pleine conscience le premier pas qui allait me précipiter sur les traces d'Alphonse II au IXe siècle de notre ère. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. La découverte des reliques de Saint-Jacques à Compostelle est évidemment très sujette à caution. La présence du Saint-Apôtre dans ses extrémités ibériques est littéralement incompréhensible. En d'autres termes, il n'a rien à faire là. Il a fallu inventer une histoire assez rocambolesque de barque à bord de laquelle sa dépouille aurait été placée et qui aurait dérivé vers l'Espagne pour rendre compte du fait que les ossements d'un homme mort à Jérusalem puissent avoir été découverts 8 siècles plus tard à 3000 km de là. Passons. Credo quia absurdum. Ce n'est pas désagréable, après tout, de s'entendre raconter des histoires. Y croire quand tout vous porterait à douter relève de la souveraineté de chacun. S'il me plaît d'y voir la vérité. Mais ce qui reste une construction historique assez fragile et sujette à caution se révéla un coup politique magistral. Ouvrir un pèlerinage vers l'ouest, c'était rééquilibrer une chrétienté que tout portait jusque-là à se déplacer vers deux sanctuaires orientaux, Rome et Jérusalem. La foule mobile des croyants, lancée sur les routes de l'expiation par le châtiment ou par le vœu, allait, à la suite du roi Alphonse, se déverser d'est en ouest vers le Finistère européen, cette Galice qui assiste au naufrage du soleil dans les eaux atlantiques. Et cette pression pérégrine ne s'exercerait pas n'importe où. Elle allait prendre appui sur des terres occupées par l'islam. Depuis les Asturies, royaume demeuré chrétien grâce au secours de son relief, la Reconquista était en marche par ce premier acte habile et relativement inoffensif. Aller vénérer des reliques, ce n'était pas encore aligner des armées. L'avant-garde des pèlerins est une première avancée qui semble toujours appartenir à la sphère privée. Derrière, plus tard, viendraient les gros bataillons de Castille. Dire que la prise de Grenade est en germe dans le pèlerinage de Compostelle serait peut-être aller trop vite. Reste qu'avec le roi Alphonse se met en marche une histoire qui ira bien plus loin. D'ailleurs, Saint-Jacques lui-même, selon les lieux et les périodes, sera représenté tantôt en pauvre pèlerin, faible et désarmé, tantôt sous les traits d'un redoutable cavalier pourfendant le sarrasin, auquel est d'ailleurs donné le surnom de Matamoros. Dans l'état d'hébétude où j'étais en avançant dans les rues, cette épopée me fournit une matière à rêver. Le départ du Primitivo me projetait dans l'escorte du roi Alphonse. Je tentais de voir par ses yeux et imaginais les reliefs que je traversais à l'époque où il n'était encombré ni de trottoirs, ni de chaussées, ni d'immeubles, ni de magasins. Les personnages de bronze grandeur nature que les Espagnols aiment répandre dans leurs villes comme autant d'étranges silhouettes immobiles me semblaient avoir été les témoins pétrifiés, dans leur immobilité de statue, de la sortie triomphale d'Alphonse de sa capitale. Assez longtemps, 2 ou 3 heures peut-être, je conservais assez d'aptitude aux rêves pour imaginer les oriflammes claquant au vent frais des combes, les villageois assemblés pour acclamer le roi, la procession des courtisans empressés de chevaucher au plus près du monarque. Ces derniers, je les voyais bien. La vie m'a donné le privilège d'observer de près ces grands animaux, félins mineurs ou fauves carnassiers, reproduits à l'identique depuis le fond des âges et pour les siècles des siècles, dressés à flatter les puissants autant qu'à mépriser les faibles, et que l'existence, quoi qu'on en dise, récompense contre toute morale. Je veux parler du peuple éternel et redoutable des Lèche-Bottes. Mais bientôt, ce dernier effort pour donner à mes pensées une direction et une forme finit de m'épuiser. Je perdis le fil du chemin, cessai de distinguer sa direction et son relief, et confiai ma survie de marcheur au repérage automatique et bientôt inconscient des coquilles le long des murs. Une étrange douceur s'était emparée de moi. Je n'avais plus mal nulle part, entraînée que j'étais par les centaines de kilomètres parcourus. Mes désirs avaient maigri plus vite que moi. Ils se réduisaient à quelques ambitions, certaines faciles à satisfaire, manger, boire, une autre assez inaccessible, mais j'en avais pris mon parti, dormir. Je commençais à percevoir en moi la présence d'un délicieux compagnon, le vide. Mon esprit ne formait plus d'image, aucune pensée, encore moins de projet. Mes connaissances, si j'en avais eu, avaient disparu dans les profondeurs et je n'éprouvais aucun besoin d'y faire appel. En découvrant un paysage, il ne me venait pas à l'esprit qu'il pût ressembler à la Corse ni à nul autre lieu que j'aurais connu. Je voyais tout avec une fraîcheur éblouissante et j'accueillais la complexité du monde dans un cerveau redevenu aussi simple que celui d'un reptile ou d'un étourneau. J'étais un être nouveau, allégé de sa mémoire, de ses désirs et de ses ambitions. Un homo erectus, mais d'une variété particulière, celle qui marche. Minuscule dans l'immensité du chemin, je n'étais ni moi-même ni un autre, mais seulement une machine à avancer, la plus simple qui se pût concevoir, et dont la fin ultime, autant que l'existence éphémère, consistait à mettre un pied devant l'autre. Alors, devant mes yeux dessillés, les Asturies déployèrent tout leur charme. Ce fut, pendant ces jours merveilleux, une pavane interminable de vallées sauvages et de crêtes somptueuses, de villages inviolés et de chemins tracés comme des caresses divines au flanc des montagnes. Ce furent des heures vertes comme les pâturages d'altitude et des nuits bleues comme le ciel d'acier qui recouvrait ces paysages. La pureté des sources qui désaltèrent au moment où l'on a soif, le moelleux blond des pins de village, la douceur troublante du vent qui glisse ses doigts dans la chevelure raidie de poussière du marcheur, tout est entré en moi avec force, sans la médiation d'une pensée, sans l'ombre d'un sentiment, d'une impatience ou d'un regret. J'ai traversé des forêts et franchi des cols, enjambé les eaux noires d'un barrage et rencontré des oreos énormes, dressés sur des collines comme de fabuleux quadrupèdes. J'ai cheminé à l'ombre grinçante de gigantesques éoliennes et dormi au sommet de promontoires rocheux que bordaient d'immenses précipices plantés de résineux et de chênes verts. Et là, dans ces splendeurs, le chemin m'a confié son secret. Il m'a glissé sa vérité qui est tout aussitôt devenue la mienne. Compostelle n'est pas un pèlerinage chrétien, mais bien plus. Ou bien moins selon la manière dont on accueille cette révélation. Il n'appartient en propre à aucun culte, et à vrai dire on peut y mettre tout ce que l'on souhaite. S'il devait être proche d'une religion, ce serait à la moins religieuse d'entre elles, celle qui ne dit rien de Dieu, mais permet à l'être humain d'en approcher l'existence. Compostelle est un pèlerinage bouddhiste. Il délivre des tourments de la pensée et du désir. Il ôte toute vanité de l'esprit et toute souffrance du corps. Il efface la rigide enveloppe qui entoure les choses et les sépare de notre conscience. Il met le « moi » en résonance avec la nature. Comme toute initiation, Elle pénètre dans l'esprit par le corps et il est difficile de la faire partager à ceux qui n'ont pas fait cette expérience. Certains, revenant du même voyage, n'en auront pas rapporté la même conclusion. Mon propos n'a pas pour but de convaincre, mais seulement de décrire ce que fut pour moi ce voyage. Pour le dire d'une formule qui n'est plaisante qu'en apparence, en partant pour Saint-Jacques, je ne cherchais rien et je l'ai trouvé.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.